4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, de bons produits, de beaux invités, le plaisir de cuisiner pour ceux qu'on aime. Vous êtes ici chez vous et de belles audiences, on vous remercie d'ailleurs les amis, vous êtes nombreux à nous écouter. Nos étudiants, vous le savez, ont du mal à joindre les deux bouts. Certains sont dans la précarité alimentaire carrément. Alors nous allons faire un état des lieux des solutions qui existent, parce qu'il en existe de nombreuses, pour qu'ils mangent à leur faim. Et dans la famille des produits de saison, on vous emmène croquer des carottes ce matin, des carottes de toutes les couleurs. Vous le savez, je ne suis pas tout seul. Inventive et éco-responsable, elle s'engage pour nos assiettes. C'est Anne-Laure Femme. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver et je vous offrirai un moment sucré tout à l'heure.
Un petit peu de douceur dans un monde de brut, ça fait du bien. Frais et pimpant comme un Beaujolais 2019, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Anne-Laure, bonjour tout le monde. Mais on va parler de Beaujolais, mais vous allez voir, un peu plus vieux.
Ah, c'est marrant parce que moi je vous avais dit que je n'aimais pas trop le Beaujolais nouveau la semaine dernière. Vous revenez au vieux Beaujolais. Bon, on en parlera. Jean-Luc Petit-Renault célébrera sa façon le vin nouveau et Marion Sauveur, vous pensez bien, sera à l'heure pour son journal de la cuisine toujours très attendu. Et nous partagerons un beau plat de crevettes grises avec Brigitte, le duo de chanteuses Bonne Vivante. À table les amis. Comment ça va?
Ça
va
bien?
Ma foi, ça va très bien.
Oui, merci amis auditeurs pour les belles audiences, des progressions sur un an, des progressions sur la dernière vague. Vous nous écoutez de plus en plus longuement en plus, donc on vous remercie chaleureusement.
Faites passer le message, diffusez la bonne information.
La boutique est ouverte tous les samedis.
Exactement, 11h-12h30.
11h-12h30, exactement. Alors avant de sortir nos kebabs pour le marché, on revient sur notre goût de la semaine, les amis, le goût qui a marqué nos papilles cette semaine. Et on va commencer par vous, Anne-Laure.
Eh bien moi, c'est une épice, un poivre frais venu du Cambodge, du Kampot. Le poivre du Kampot, on en entend beaucoup parler chez les chefs. Vous adorez, vous avez excellent goût. Eh bien, vous allez adorer le poivre frais salé du Kampot. Donc les grains sont directement cueillis et mis avec des grains de sel pour la conservation. Et vous ouvrez le sachet, c'est dément, on a l'impression de les avoir tout juste récoltés. Voilà, ça a un goût frais, intense,
comme
vous n'avez pas besoin
vert,
de le chauffer.
Quoi, c'est un poivre frais.
Mais encore mieux, je vous dirais, parce que quand vous le croquez, eh ben, j'ai fini mon sachet en fait, c'est pour ça que j'en ai pas.
Eh ben, on
délicieux.
Prend...
sachet éco-idée, 10 euros les 80 grammes.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Bah, écoutez, la semaine dernière, on a parlé d'un plat mijoté, un plat de saison. On a parlé de la blanquette.
Oui.
Je suis allé dîner chez un de nos amis communs, d'ailleurs, Julien Arnault, le présentateur de TF1.
Oui, du 20h, absolument.
Qui m'a fait une blanquette, dans les règles de l'art, 3 heures de boulot, toute l'après-midi. Enfin, il avait vraiment bossé le week-end dernier. Malheureusement,
qu'est-ce qui s'est passé?
L'apéritif a été un peu long. Et au moment du réchauffage de la blanquette, ce qu'il ne faut pas faire,
non,
il faut rappeler qu'on
ne réchauffer. On l'a dit la semaine dernière que ça ne se réchauffait pas ou qu'il fallait tout décanter.
Il n'avait pas entendu ça. Il l'a réchauffé.
Pourtant, il nous écoute.
Bah oui, il nous écoute souvent. Et malheureusement, la blanquette a cramé.
Non.
Ah, carrément.
Donc le goût de la semaine, c'est le goût du fumé.
Le goût du cramé, du boucané, comme, comme dans les Antilles.
C'était croquant, du coup. Croquant gourmand.
Mais malheureusement, là, c'était terrible. Bon, j'embrasse Julien. Et on lui rappelle qu'il ne faut pas réchauffer la blanquette.
La blanquette, voilà, on la sert juste avant. Julien Arnault qui aime cuisiner, c'est déjà une bonne chose.
Julien.
Bravo Julien. Mon goût de la semaine, c'est le goût du tartare. J'ai dégusté un tartare au drugstore Publicis, vous savez, en haut des Champs-Élysées. Le drugstore, c'est une adresse que les Parisiens connaissent bien, qui avait été un petit peu délaissée il y a quelques temps. Éric Fréchon signe aujourd'hui la carte du drugstore. Il prend le même produit et il le fait en version crue ou cuite. Et là, il faut un tartare qui est absolument délicieux. Si vous êtes de passage...
Au couteau, j'espère.
Au couteau, absolument, bien assaisonné avec les frites, le cœur de laitue juste à côté. Je m'adresse à nos amis provinciaux, s'ils sont de passage à la capitale. Ça fait partie des endroits où il faut aller se retrouver dans une belle ambiance. Comme ça, c'est un beau lieu. On peut faire ses courses en même temps, acheter de la presse et acheter des livres. Voilà, c'est le tartare du drugstore Publicis en Haut-des-Champs. Allez, maintenant, on va faire le marché, les amis. Frédéric Michel, notre correspondant en Provence, nous attend au marché du cours Lafayette à Toulon. Et il vous a tendu le micro à la fin du marché. Et la fin du marché, c'est un moment particulier parce qu'on peut faire de belles affaires, de belles promos. Et quand on est étudiant, c'est pas négligeable, on en parlera tout à l'heure.
Des fois, il y a des affaires à faire sur les fins de marché, mais des fois, on tombe sur des produits qui sont pas de bonne qualité. Il y a beaucoup de trucs qui sont détériorés, qui sont presque périmés.
Pas avec tous les marchands.
Allez, 1 euro le kilo, la pomme, l'orange et la banane.
Oui, parce que c'est arrangeant, parce qu'on n'y arrive pas. Hein. J'ai même pas 700 euros de retraite et puis j'ai rien vu d'augmentation. C'est une nécessité.
Et on trouve de bons produits en fin de marché?
Oui. Le commerçant, il s'y prête. Oui, un peu de tout. Oui, il y a des prix intéressants. Là, j'ai pris des poireaux, c'était en fin de marché. Je les ai trouvés à même pas de 2 euros. Par exemple, hier, ils dépassaient 2 euros et c'était inadmissible.
Merci.
Là, vous bradez ?
Oui, monsieur. Les gens qui sont difficiles en milieu de mois, fin de mois, et ils cherchent des petits prix. C'est compréhensible. Il y a toujours des bonnes affaires à faire. Aller sur les marchés de France, à n'importe quelle heure. Parce qu'on trouve de tout pour toutes les bourses.
Deux avocats, 1 euro, 2 comptons, 1 euro.
Eh bien, on prend absolument, monsieur. Il y a toujours de bonnes affaires à faire sur les marchés, même les promos et les fins de marché, évidemment. Ça, c'est toujours là, on le dit régulièrement, mais qu'on peut faire de belles affaires.
Et même quand les fruits et les légumes sont un petit peu moins beaux, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas comestibles et qu'ils ne sont pas bons. Donc, même une pomme abîmée, même un poireau qui commence à fatiguer un
mais
tout petit peu.
Mais on en fera une soupe, la pomme. On en fait une belle compote vintage avec des morceaux. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. C'est vrai qu'on était trop, je trouve, perturbés par les apparences et les beaux calibres. Voilà, donc le goût, c'est à l'intérieur qu'il se trouve.
C'est normal. Et puis surtout, ne faites pas jeter les fans, s'il vous plaît.
Oui, on peut en faire des soupes, c'est vrai.
Mais voilà, c'est un ingrédient à part entière.
Du poireau, pareil. Hein, voilà. Ouais. Même pour parfumer un pot-au-feu, enfin voilà, on garde, on ne jette pas. Tiens, devinette, je rends aimable et les fesses roses. Je suis de saison
c'est
et
pas
à croquer.
D'accord.
Je suis pas aimable, c'est ça ? Attention à ce que vous dites. Je suis.
La carotte,
ben voilà, on va vous en faire entendre de toutes les couleurs juste après ça, tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Vous la connaissez, hein, c'est une grande dame de la cuisine. Elle nous accompagne toute l'année en primeur au printemps et en plus gros calibre de garde en hiver. C'est le moment d'accueillir la carotte, les amis. Et pendant la pub, on se posait la question. Je vous ai dit juste avant, c'est vrai que ça rend aimable et ça donne les fesses roses. C'est des légendes urbaines, comme on dit. Mais vous avez une idée peut-être sur l'aimabilité de la carotte?
Oui, parce que la carotte,
Olivier,
longtemps a été donnée aux ânes. Et pas forcément aux humains. Oui. On nourrissait les ânes avec la carotte et on savait que pour les faire avancer, il fallait leur montrer la carotte.
Parce que les ânes
qui sont têtus, en leur montrant la carotte, et regardez, ça les rend aimables. Ils suivent le chemin qu'on leur dit.
Mais moi, c'est pareil, vous mettez une salade de carottes devant et j'avance plus rapidement. C'est ça, on y est. Alors, on la connaît orange aujourd'hui, hein, bien entendu. C'est vrai qu'elle est agréable aussi par cette belle couleur, parce que la couleur orange, au passage, stimule l'appétit. Donc, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir une belle assiette orange. On en a devant nous, là, on a des carottes râpées, on va vous en parler.
On va les goûter,
et
surtout.
Une belle soupe de carottes, on va goûter tout ça. Mais la couleur a évolué, hein, Olivier Pouls, de la carotte.
Et ben, en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'en réalité, les légumes racines, il y a quelques siècles, on les mettait tous dans le même panier et on ne faisait pas de distinguo entre la carotte, le panais.
On a confondu le panais et la carotte,
exactement,
qui était blanche, hein, d'ailleurs.
La carotte était probablement blanche, voire rouge, mais la variété orange telle qu'on la connaît là, elle est beaucoup plus contemporaine, elle vient de Hollande.
Elle est riche en vitamine C, en provitamine A, ce qu'on appelle le bêta-carotène. Voilà, la carotte nous veut du bien, pensons-y. Allez, on vous emmène en voir de toutes les couleurs, justement, à Oudon. En Loire-Atlantique, c'est juste à côté
très
de Nantes.
Belle région. Hein,
vous connaissez bien leur femme, on va en parler juste après. Alors la tempête Amélie a sévi dans la région au début du mois, sans compter les grosses averses. Donc le sol a reçu beaucoup d'eau. François Coulon, notre correspondant dans la région, a chaussé les bottes pour récolter les carottes en compagnie de Laurent Jouve, un beau maraîcher bio.
On est sur des terres de plateaux, de coteaux. Donc on n'est pas sur des zones très sableuses. Quand on travaille à la terre, on se sent tout petit par rapport aux éléments de la nature. Et que des coups de Trafalgar, comme on a vécu là ces temps, ce n'est pas le premier, ce ne sera malheureusement pas le dernier. Sur la carotte, ses racines vont être très vulnérables, comme actuellement. Quand il y a beaucoup d'eau, elles ont tendance à pourrir si on les laisse en terre. On a la chance d'avoir un peu toutes les couleurs. Alors on a de la carotte bien sûr orange que vous connaissez, de la carotte jaune, déjà un peu moins connue, de la carotte blanche. On va essayer de trouver de la carotte noire. Et quand on en casse une, par exemple, voilà, celle-ci, elle est violette à l'intérieur. Quand vous allez la râper, si vous faites des carottes râpées, par exemple, elle va rester violette.
Elle est splendide, hein, voilà. Faut le dire.
On va sortir les carottes. Voilà, ça ce sont des carottes jaunes, plutôt grosses en calibre, entre 400 grammes, mais c'est pas exceptionnel d'avoir des carottes qui font pratiquement le kilo.
Pourtant, c'est aussi bon ou pas ?
Mais c'est aussi bon. C'est toujours un peu la surprise. Quand on voit une feuille, on va tirer sur la feuille, mais on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Et c'est toujours la surprise de tout à coup découvrir qu'il y a une très grosse carotte, ou au contraire de dire, oh ben celle-ci, elle est ridicule. C'est la surprise à chaque fois.
La surprise du jardinier. Merci François Coulon pour ce reportage, et bravo Laurent Jouve, maraîcher des jardins de Pimba. C'est vrai qu'il faut aussi avoir un engagement concitoyens auprès de nos maraîchers, par exemple quand ils subissent des intempéries comme c'était le cas avec la tempête Amélie, la production en prend un coup, donc soutenons-les en allant en premier
au marché,
effectivement au marché, acheter auprès de nos producteurs locaux.
Ou en vente directe aussi parfois.
C'est pas vous qui allez dire le contraire, Anne-Laure Femme, vous êtes installée fraîchement du côté de Nantes, près de la Loire, c'est une belle terre de carottes.
Et oui, il y a même la carotte nantaise qui est un peu le best-seller de la carotte orange. J'aimerais bien vous dire qu'elle a quelque chose de très terroir, mais en fait, elle a été très reprise et ensemencée partout. Donc, la plus grande chose de Nantais. Par contre, il y en a une autre que j'adore, c'est la carotte de Chantenay, qui est vraiment à côté de Nantes.
Je connais pas,
elle est très ferme, très courte sur pattes, très tassée.
Trapue,
ouais. Voilà. Et elle est ferme et j'avoue qu'il faut un peu plus la cuire, à mon avis. Et vous en avez des magnifiques de la ferme de Killy dans le 44. Elles sont violettes à l'extérieur et jaunes à l'intérieur. Et aussi, on a les carottes de Créance.
Ah, ça, c'est dans la Manche.
Qui sont dans un Cotentin, voilà. Elle a la particularité d'être servie toute sableuse et c'est. Ajoutons que le sable, c'est utile pour conserver plus longtemps la carotte.
C'est vrai aussi, mais
c'est un peu embêtant à nettoyer.
Elle pousse dans le sable, la carotte de Créance. Elle est très sucrée. Elle a encore un goût sucré, je trouve, plus prononcé que les carottes traditionnelles.
Et elle a un petit goût iodé aussi, de sa proximité.
Tous aux carottes. Alors là, on a un bel échantillon de recettes devant nous. Julien Amat, qui travaille à la rédaction de l'émission, nous a fait des carottes râpées. Ça, c'est vrai que ça marche toujours, les carottes râpées. Et là, il les a relevées avec du gingembre, du citron et de la coriandre. Verdict, Olivier Pouls.
Ça marche très bien. J'ai fini.
Le
gingembre, c'est génial.
Ça pepse admirablement. Le gingembre, c'est fantastique.
C'est antiseptique, le gingembre, en plus.
Ça a d'autres vertus encore, je crois.
Aussi, oui, aphrodisiaque, absolument. Comme les huîtres. C'est délicieux. Bravo, Julien. C'est très, très bon avec la coriandre.
Et la version,
c'est un bel accord.
Version soupe aussi.
Et la version
avec
soupe.
Des noisettes, en effet, la carotte s'accorde merveilleusement bien.
Alors attention à ce que vous allez dire. C'est la soupe préférée d'Eugénie, la fille de 5 ans de notre rédactrice en chef. Quand elle a un petit coup de blues, elle demande la soupe orange de maman. Donc on va la goûter.
Eh bien, merci Eugénie.
Il y en a qui se réconfortent avec des soupes vertes aussi. Mais là, elle est orange.
Non, mais elle est délicieuse.
Très bonne.
Et puis on a vraiment le goût de la carotte.
Que la carotte. Il y a quoi ? Un petit bouillon de légumes, Lucie Lescourou, dedans avec des oignons, un petit bouillon de légumes. Voilà, c'est simple comme tout.
Et c'est magnifique.
Et moi, j'adore les carottes cuites au four. C'est la façon la plus simple et enfantine de les servir en hiver.
C'est vrai,
avec
c'est
tous les
confite,
autres légumes racines. Vous recouvrez ça de sirop d'érable, huile d'olive, moutarde à l'ancienne.
Ah bien.
Et sirop d'érable, moutarde à l'ancienne, je vous assure, ça, les gens font wouhou.
Et des gousses d'ail en chemise et plein de légumes racines, vous avez raison.
La gousse d'ail, bien
et là
sûr.
Encore une fois, il n'y a rien à faire, c'est le four qui bosse, 180 degrés pendant 45 minutes et ça cuit, ça confit.
Et des carottes braisées dans un jus d'orange, ça marche aussi admirablement bien.
Et puis, redisons-le encore, surtout quand elle est dégustée fraîche, riche en vitamines. Et des vitamines, nos étudiants en ont bien besoin pour affronter l'hiver. On parle de la précarité alimentaire des étudiants. Il existe plein de solutions, vous allez entendre, pour qu'ils mangent à leur faim. On en parle juste après ça. A tout de suite et bon samedi les amis.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Le monde change, vous le savez, et bien celui de nos assiettes aussi. Et heureusement, Marion Sauveur est là pour nous mettre à jour avec son journal de la cuisine. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Bonjour Marion.
Marion qui mange beaucoup de carottes parce qu'elle a toujours le sourire, elle est toujours aimable. Donc
j'ai la peau rose.
On ne dit rien sur les fesses de Marion, s'il vous plaît.
Râpée ou cuite?
Ah, j'aime bien cuite.
Vous aimez bien cuite? Eh bien, il y a de la soupe. Mais après le journal de la cuisine, ça.
Avec plaisir.
Voici les titres, justement. Mardi débute la campagne des Restos du Cœur. Les huîtres de Cancale en route pour l'UNESCO, dites donc. Et une pétition contre les nitrites, c'est le menu du journal de la cuisine de Marion Sauveur. La 35e campagne hivernale des Restos du Cœur est lancée dans 3 jours, Marion.
L'an dernier, 133 millions de repas ont été distribués à 900 000 personnes, un nombre en continuelle augmentation. Alors vous pouvez faire un don ou acheter le livre de nouvelles 13 à table dont l'intégralité des recettes est reversée aux Restos du Cœur. Et cette année, c'est sur le thème du voyage.
Il est super ce livre, j'achète tous les ans, ça coûte 5 euros, c'est reversé aux Restos du Cœur. Et c'est de grands auteurs en plus qui écrivent des nouvelles, donc allons-y, absolument, on fera une bonne action. L'élevage des huîtres de Cancale, inscrit, s'il vous plaît, à l'inventaire du patrimoine immatériel de la France.
C'est une reconnaissance du savoir-faire de la quarantaine de producteurs de ces huîtres élevées en pleine mer et au goût iodé et de noisettes. Une première étape en vue d'un éventuel classement au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le gouvernement doit encore se prononcer sur cette candidature.
Ah oui, l'huître pied de cheval de Cancale fait partie des choses qu'il faut avoir dégustées une fois dans sa vie. Foodwatch lance une pétition contre les nitrites, Marion.
L'association s'associe à l'application Yuka et la Ligue contre le cancer pour interdire les additifs E2 249, 250, 251 et 252.
Oh, c'est
rêvé. Des nitrites particulièrement utilisés dans la charcuterie industrielle. Ils facilitent la conservation, donnent une couleur rose à votre jambon notamment. Ces substances sont classées comme cancérogènes probables par l'Organisation mondiale de la santé.
Marion, maintenant place à votre cerise sur le gâteau. Et cette semaine, vous vous intéressez à une initiative de Rue Tabago. Qu'est-ce que c'est déjà Rue Tabago ?
Rue Tabago, c'est un site qui propose des paniers prêts à cuisiner écologiques.
Sur Internet.
Voilà, et qui lance le Fair Friday vendredi prochain. L'idée, c'est de contrer le Black Friday, cette journée qui lance les achats de fin d'année avec des promotions monstrueuses sur Internet.
Alors, en quoi ça consiste ?
Alors, en une journée de solidarité. Jusqu'au 29 novembre, jusqu'à vendredi prochain, Rue Tabago collecte des fonds via une plateforme Mimosa pour distribuer des repas pour des familles en précarité. C'est en partenariat avec l'association Aurore qui travaille en faveur de l'insertion sociale en Seine-Saint-Denis. Et avec 5 euros versés, 3 repas sont offerts.
Ah oui, pas mal. Et qu'est-ce qu'on mange alors ?
Alors, chaque repas comprend une portion d'un plat principal et une portion d'un dessert pour une personne. Ce sont des repas bio et végétariens. Ça peut être par exemple un riz vinaigré aux algues noires et sésame, des navets glacés aux riz crémeux et amandes effilées ou encore une fondue d'endives, pommes et quinoa.
Et comment on fait pour participer ?
Eh bien, on va tout simplement sur Mimosa. On vous donnera l'adresse exacte sur europe1.fr.
Eh bien, merci Marion Sauveur. Et à tout à l'heure, Marion. Mardi prochain, nos étudiants manifestent pour dénoncer la précarité qu'ils subissent. On parle carrément de précarité alimentaire. Alors, comment nos jeunes se nourrissent-ils ? Comment réussir à manger avec moins de 6 euros par jour ? Parfois, on en parle avec Boris Tavernier, fondateur de l'association VRAC. Bonjour Boris Tavernier.
Bonjour Laurent.
Et merci d'être là. Alors, en un mot, VRAC, c'est une association qui favorise les groupements d'achat et qui permet d'ouvrir des épiceries dans les cités. On y trouve des produits bio à moitié prix des magasins traditionnels en fait.
C'est exactement ça, oui. C'est vraiment pour lutter contre ces inégalités en matière de consommation qu'on développe ces groupements d'achat dans les banlieues pour lutter aussi contre la précarité et rendre accessibles des bons produits, des produits de bonne qualité pour redonner le goût de cuisiner.
Alors cette année, vous avez décidé de créer VRAC étudiant. C'est le même principe ? Comment ça marche ?
Oui, bah malheureusement, on s'est rendu compte que la précarité était la même à la fois dans les quartiers populaires et sur les campus. Donc on a dupliqué le projet et on s'installe dans les universités.
Carrément, dans les universités.
Dans les universités, ouais, avec d'autres associations, avec les Agorae, qui sont déjà des structures présentes, mais plutôt des épiceries sociales qui vont toucher un public extrêmement précaire. Et le VRAC Université, l'objectif, c'est de l'ouvrir à tout le monde, à tous les étudiants. Donc chaque mois, il y aura des prises de commandes sur le campus et en ligne, et des distributions, pareil, mensuelles, où les étudiants pourront avoir accès à des produits locaux, bio, à prix coûtant.
Alors Anne-Laure, on va faire un petit point sur le nombre d'étudiants en France. Ils sont combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ils sont 2 700 000. Ouais. Alors qu'en 1980, ils étaient seulement entre guillemets 1 180 000. Donc ça veut dire qu'en 40 ans seulement, la population étudiante a doublé.
Oui, c'est énorme. Et on n'a pas assez d'infrastructures en plus pour satisfaire tous ces étudiants et puis pour les aider à bien manger. Avec l'actualité tragique de ces dernières semaines, Boris Tavernier, un coup de projecteur a été mis sur l'extrême précarité étudiante. Ça concerne combien d'étudiants à peu près ? On a une idée, ça ?
On parle de 20%, mais les chiffres sont très compliqués à voir. Il y a plusieurs études différentes. Effectivement, il y en a de plus en plus qui sont en difficulté pour se nourrir tout simplement.
Alors VRAC étudiant, qui est votre association, comment ça marche concrètement ? Je suis étudiant et je veux venir faire mes courses chez vous. Est-ce qu'il y a déjà un revenu maximum à ne pas dépasser ?
Non, nous l'objectif c'est vraiment l'accès pour toutes et tous. Donc on ne demande rien, vous êtes étudiant. Je ne suis pas certain que vous le soyez encore.
Non, mais j'aimais bien. Vieil étudiant.
Donc vous avez droit. Chaque mois, vous nous envoyez juste un mail et chaque mois, vous recevrez un bon de commande avec une centaine de références de produits, essentiellement des produits secs, beaucoup de légumineux aussi, de jus de fruits et plein d'autres choses. Et vous choisirez les produits dont vous avez besoin et les quantités.
En fait, on se rend compte d'une chose, pour que nos étudiants mangent correctement, il faut qu'ils cuisinent en fait aussi, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous leur donnez accès à des produits d'épicerie de consommation courante et puis qu'ils se conservent bien aussi.
Oui, parce que je suis persuadé que vraiment, quand on a accès à des bons produits, on a envie de cuisiner et on a envie de partager. Donc ça peut aussi aider à lutter contre la solitude, qui est une autre difficulté dans le monde étudiant aujourd'hui. Quand on est en précarité alimentaire, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas aller partager un repas avec un copain, donc on se retrouve souvent seul. Et pourquoi pas, oui, d'accéder à des bons produits, de cuisiner ensemble pour de nouveau prendre du plaisir.
Il faut qu'ils cuisinent, nos étudiants, et ils cuisinent justement. Vous entendrez, on en parlera avec Imen, étudiante à la Sorbonne, juste après ça. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Faire à manger avec peu de moyens et pas beaucoup de temps, voilà le menu de nombreux étudiants aujourd'hui en France. Et on a pu encore en entendre parler cette semaine sur Europe 1.
Je suis boursier, c'est assez compliqué des fois. Le niveau de la bourse, il est vraiment trop bas pour vivre, pour avoir une situation qui permet de se concentrer sur les études ou juste pouvoir manger tout le temps à sa fin. Il faut payer le loyer et quand il y a des imprévus qui tombent pendant le mois, bah, pour finir le mois, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Alors Boris Tavernier, le créateur de l'association Vrac Étudiant, est avec nous. Vous êtes un militant du droit à bien manger pour tous. On en parle justement. Alors on parlait des cuisines dans les facs en fait. Est-ce que c'est pas ça la solution d'installer des cuisines, des points cuisine avec Vrac Étudiant, votre association qui vend des produits de qualité et que les étudiants pourraient cuisiner sur place?
Bah effectivement, je pense que ça pourrait être une très bonne idée, soit sur les campus ou effectivement plutôt aux endroits où ils sont logés. Mais le fait de se retrouver, de cuisiner ensemble, on peut déjà mutualiser les achats, donc ça coûte moins cher. Cuisiner pour plusieurs jours et retrouver ce goût-là, ce goût du plaisir, ça peut être une très bonne solution.
Olivier Poulzou, qui avait été étudiant de très nombreuses années, hein, on ne le dira jamais assez.
10 ans
comment vous débrouillez? Vous avez des souvenirs justement d'avoir du mal à joindre les deux bouts quand vous étiez étudiant?
J'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème-là, ce qui ne veut pas dire que je cuisinais et que je mangeais des choses extraordinaires tous les jours.
Non, on a été mais beaucoup voilà, plus au pâte,
j'ai, oui. Voilà, j'ai eu la chance de vivre en plus dans une époque où je pense que les difficultés pour les étudiants étaient moins grandes qu'aujourd'hui. Mais j'ai eu une grande période, ravioli buitoni, oui, dont je me souviens.
Ah, les fameux.
Alors justement, on va vous faire cuisiner avec des choses. Il revient au buitoni, c'est pas possible.
Le goût de l'adolescence.
Tiens, une information que j'ai repérée dans le Télégramme, le quotidien breton. Un plateau au Resto U n'est en effet pas la solution à tout le monde. Écoutez bien, un étudiant qui dit « J'avais calculé qu'avec 5 euros en faisant mes courses, je pouvais me préparer 2 repas, alors qu'au Resto U, un repas me coûtait 3,25 €. J'en étais arrivé à compter les centimes. » Donc, c'est pas une légende, hein, ça. Hein. Alors, une des solutions pour mieux manger et faire des économies, c'est de cuisiner. On en parle avec Imen, étudiante à la Sorbonne. Bonjour Imen.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Merci
bonjour.
D'être avec nous au téléphone, Imen. On vous a découvert sur Instagram où vos recettes étudiantes pour trois fois rien cartonnent. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en communication à la Sorbonne. Vous touchez une bourse de l'État pour subvenir à vos besoins jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, vous êtes en alternance, mais la situation en est guère plus brillante quand même côté revenus. Votre compte Instagram s'appelle Recettes Échelon 7, c'est dur à dire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, recette échelon 7, c'est référence à l'échelon de la bourse numéro 7, qui est le plus élevé et par définition qui est attribué aux personnes qui viennent de familles modestes ou qui ont peu de moyens. Et donc, en l'appelant comme ça, je leur dis que c'est des recettes aussi pour eux, avec peu de moyens, et aussi parce qu'avant, j'étais échelon 7.
D'accord. Il est de combien, Imen, votre budget alimentation par semaine?
Alors, je fais mes courses à peu près toutes les 3 semaines. J'en ai pour 30-40 euros, donc ça revient à peu près 10-11 euros par semaine.
10-12 euros par semaine, donc c'est un petit budget. Comment vous faites concrètement vos courses avec 10-12 euros par semaine?
Alors, c'est plein d'astuces. Je ne vous cache pas que ça prend du temps à se mettre en place. J'ai écumé les magasins pour savoir où était la salade la moins chère, où étaient les légumes les moins chers. Ça prend du temps, mais une fois qu'on a le truc, on arrive à bien manger avec 10-12 euros par semaine. J'achète beaucoup de légumes au marché. Je vais à la fin du marché où ils bradent un peu.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
Toutes molles et les poivrons un peu.
C'est pas grave, un peu ratatiné, mais ils sont bons, c'est ça qui compte.
C'est pas grave, ils sont bons et moi j'arrive à cuisiner avec, donc ça me va. J'achète aussi des invendus avec des applications et je joue beaucoup sur mes recettes avec les assaisonnements. Là par exemple, j'ai proposé 2 recettes de nouilles aux légumes, c'est exactement les mêmes ingrédients, mais avec une sauce et des assaisonnements différents. J'arrive à une chose qui est complètement différente.
Oui, j'ai vu sur Instagram, vous aimez bien, comme on dit, pimper et twister avec les épices, hein, du piment, du persil, du basilic.
Exactement.
À gogo.
Il y a évidemment des produits auxquels vous n'avez, j'imagine, pas accès. Le poisson, la viande, c'est des choses que vous ne mangez pratiquement jamais, du coup.
C'est ça, c'est très rare que je mange de la viande. Et justement, parce que c'est très rare, j'ai fait très attention, c'est boucherie directe. Hors de question que je mange de la viande discount pour ma santé. Voilà, c'est un aliment qui est très sensible. Donc j'essaye de faire attention au poisson pardon, et à la viande. Mais voilà, c'est vrai que je ne mange pas malheureusement du poulet autant que j'aimerais en manger.
Eh ben, merci beaucoup Imen d'avoir été avec nous au téléphone. Et je rappelle qu'on retrouve vos idées recettes sur Instagram, recettes échelon 7. Et c'est un compte qui cartonne. Vous avez de plus en plus d'abonnés depuis quelques semaines.
Oui, c'est cool. Je pense, donc tant mieux.
Eh ben, bravo. Beaucoup. Et continuez bien. Merci d'avoir été avec nous Imen. Et bravo de ne pas se laisser abattre. Anne Lorfam, il y a une belle initiative aussi pour mieux manger et apprendre à cuisiner. C'est celle de l'école de cinéma à Lyon. Racontez-nous.
Et oui, c'est assez bluffant comme organisation. C'est une chef qui s'appelle Sophie Imbert. Elle va s'occuper de la cantine cuisine à temps plein. Mais pour l'aider, chaque semaine, vous avez un petit groupe d'étudiants qui va être désigné. Et avant les cours, de 8h à 9h, qu'est-ce qu'on fait? On épluche, on fait les préparations et hop, on assure le service du midi à la cantine pour la semaine. Ce qui est chouette, c'est que ça va amener chacun de ces petits groupes à découvrir des nouveaux produits, à en apprendre plus sur les savoir-faire et les techniques de base de cuisine et aussi tout simplement à entretenir le lien de la communauté. C'est tout fait maison. Je vous donne un exemple de menu hyper inventif. Salade de légumes rôtis, tarte saumon bio, fromage blanc et oseille avec crudités radis noirs et fenouil. Poire pochée, verveine, repas 1,20€ pour le moins cher. C'est une cantine solidaire, c'est génial.
Boris Tavernier, il existe aussi d'autres circuits, pas forcément réservés aux étudiants. Vous nous avez cité La Cagette, c'est un magasin coopératif du côté de Montpellier, c'est ça?
Oui, exactement. On vient de terminer un petit tour de France des groupements d'achat, de toutes les alternatives qui existent en matière de consommation. Et on a pu visiter La Cagette, qui est une coopérative. Donc là, on donne un peu de son temps, on donne 3 heures par mois pour avoir des produits qui sont beaucoup moins chers. Donc moins de temps, moins de salariés, beaucoup de bénévolat, d'investissement, ça fait des prix qui sont plus intéressants. Et les fruits et légumes à Montpellier sont les moins chers à La Cagette.
Et ben voilà, des épiceries solidaires, vrac étudiant, des applications, un compte Instagram, des livres. Il existe des solutions. Je vous cite un livre, tiens, justement, qui s'appelle « Pressé, fauché, mal équipé, mais gourmand ». Un livre de Marie Chocade aux éditions Terre Vivante.
Super auteur.
Des plats uniques, équilibrés, vachement bien et accessibles. Donc vous voyez, il existe des solutions, mais c'est vrai qu'il faut cuisiner. Merci Boris Tavernier.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Merci. Pour bien cuisiner, justement, il faut aussi avoir de bons livres. Les fêtes approchent, alors on vous a fait une première sélection et on va aussi fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau.
Oui, mais nouveau. Plus vieux.
Oui, avec Jean-Luc Petit-Renaud qui lui aime le nouveau. Vous allez entendre Jean-Luc Petit-Renaud, c'est le nouveau qu'il aime.
Alors,
Il y a match à compète. Juste après ça, à tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque.
Laurent Mariotte.
Appelez-moi super, pas de chichi.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Brigitte, le duo de chanteuses, compositrices et bonnes vivantes sera avec nous d'ici quelques instants. Vous réjouissez, Olivier Pouls?
Je me réjouis.
Vous aussi,
moi, je les ai vus en concert, j'adore. Ouais.
Mais on est tous fans ici, et vous aussi, de l'autre côté de la radio, je le sais. Elles adorent cuisiner et bien manger. On va les découvrir, justement, côté fourchette. Mais à un mois du réveillon, on a décidé de vous faire une sélection de livres de cuisine incontournable, parce que c'est vrai que ça, c'est de belles idées cadeaux, les livres de cuisine, et il y en a plein. On va commencer, tiens, par vous, Anne-Laure Femme, un livre que vous avez repéré.
Ben moi, j'ai envie de me pencher sur l'histoire de nos aliments à travers l'histoire de France à pleines dents. C'est de Stéphane Hénaud et Jenny Mitchell, qui se présente comme un grand roman national à savourer, paru chez Flammarion, 23,90€. C'est une histoire de France à travers plein d'anecdotes culinaires. C'est ce que j'appelle ces livres très pratiques à lire à la va-vite, c'est-à-dire que vous pouvez lire 3-4 pages, hop, vous
on
vous sentez enrichi.
Picorer.
Il y a une anecdote particulièrement savoureuse, page 323, sur les liens entre la vache qui rit et le maréchal Pétain.
Ah bon ?
Voilà, je vous en dis pas plus, sinon vous n'allez jamais l'ouvrir.
C'est vrai, c'est Pétain qui a inventé vache qui rit ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Non, ça a contribué à remonter le moral des troupes sous la Première Guerre mondiale.
Ah oui, c'est vrai que c'est gras et ça fait du bien. Oui. Olivier Pouls, vous avez repéré un livre. Alors, étonnamment, il n'est pas vegan, c'est sur la charcuterie.
C'est pas un livre sur les graines, figurez-vous ou non. Alors, j'en ai même deux pour le prix d'un. Charcuterie, tout simplement, de Philippe Toinard et Guy Krenzer. Guy Krenzer qui est meilleur ouvrier de France, mais également grand chef chez Le Nôtre. Et là, c'est 120 produits, 120 recettes. C'est la charcuterie, alors de A à Z, tout ce que vous pouvez imaginer. Faites vos merguez, faites vos chipolatas, vos saucisses, bien sûr. Alors, il y a toute une partie, le boudin, le pâté de campagne, tout ce que la charcuterie a de meilleur. Et franchement, rien qu'à tourner les pages, j'en salive un peu. Et
ben
puis,
oui.
Deuxième livre. Alors, celui-là, il est signé
double
d'une,
dose de charcuterie.
Ouais, d'une institution lyonnaise.
Sans litrite, alors, on l'a dit tout à l'heure dans le journal de la cuisine.
Bien évidemment. Et puis là, celui-là est signé d'une institution lyonnaise qui s'appelle Sibia. Bien connu des
bien
Lyonnais,
hein,
une maison noble et notable depuis 1922.
Qui est au Halles-Paul Bocuse.
Voilà exactement la charcuterie lyonnaise. 80 recettes sur cette charcuterie incontournable qui va des croquettes de jambon au parmentier de cochon en passant par les chaussons de pommes de terre à la fraise de veau. Là aussi, j'en salive.
Voilà, quand je dis sans nitrite, en tout cas, c'est avec des doses de nitrite diminuées parce qu'on ne peut pas complètement s'en passer d'un coup d'un seul. Quoi. Donc c'est vrai que nos charcutiers diminuent en tout cas les doses.
Mais en tout cas, celles qu'on fait à la maison, qu'on peut faire à la maison, là, c'est sans nitrite.
Exactement. Tour au bûchon, ça c'est un livre que je vous ai repéré, paru chez Solar. C'est une réédition d'un livre de Robuchon qui était paru aux éditions Perrin. Écoutez bien, 800 recettes, tous les grands classiques de Joël Robuchon. Alors on se dit, oh là là, Robuchon, ça va être technique, ça va être compliqué.
Pas du tout,
là il reprend vraiment les grands classiques de ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise traditionnelle. Il y a la poule au pot, il y a plusieurs variétés de pot-au-feu, par exemple, avec différents types de viande.
Et sa purée.
Et sa purée, bien entendu, la purée est là, il y a des endives, il y a des poireaux vinaigrettes. 800 recettes, ça coûte moins de 30 euros et franchement, c'est une belle idée cadeau, ça aussi. Tout Robuchon.
Vous me l'offrez pour Noël
chez Solar. Bah tiens, cadeau, je vous l'offre tout de suite.
Voyez. Moi, je vous offre la charcuterie.
Eh bah, merci. Ah bah,
moi, je garde mon histoire de France.
Ah,
toc.
Bah tiens, à propos de Anne Lorfam, je voudrais signaler un livre qui s'appelle Le Tour de France des saveurs. Livre auquel vous avez collaboré, Anne Lorfam. C'est paru chez Belle Balade Édition et c'est vraiment un Tour de France des saveurs, comme son nom l'indique.
On passe par la Bourgogne.
Il y a une belle partie sur l'agneau de présalé qui est un agneau que j'adore. Donc,
tout à fait.
Bravo, Le Tour de France des saveurs. Vous retrouverez des références évidemment sur Europe1.fr, les amis.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ça ne vous a pas échappé, le Beaujolais nouveau est arrivé depuis jeudi, un vin qui rime avec gaieté pour le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, mais pas que. Hein. Et chaque samedi, vous savez, on retrouve Jean-Luc dans un endroit différent pour son joli billet d'humeur. Et bien aujourd'hui, il est attablé au nouveau bistrot de Stéphane Reynaud, on en parlait tout à l'heure, à Paris, dans le 7e arrondissement. Son nouveau bistrot s'appelle Oui, mon général. Alors, général Jean-Luc, il vous plaît ce Beaujolais ?
Eh bien le bonjour, mes camarades de zinc. C'est vrai que depuis l'été dernier, on avait un peu oublié les Bermudas, les épuisettes, et puis on est sombré dans cette grisaille. Le ciel est chargé, la pluie, le mauvais temps. Et on avait besoin d'une petite fiesta qui nous réveille. Alors le Beaujolais, il arrive avec toute sa légèreté. On dirait un peu une jeune fille qui continuerait de fêter le 14 juillet. Vous savez, ces filles comme ça avec des jupes en crépons multicolores et qui dansent sur le comptoir en frappant du talon. Il est comme ça, ce vin. Il a frisoté à l'intérieur de la cuve. Il a chanté une douce mélodie. Prisonnier justement de son tonneau, le vigneron allait parfois au milieu de la nuit en pyjama avec son bonnet de nuit sur la tête à pompons. Et il allait coller comme ça son oreille contre le fût pour l'entendre chanter le vin. S'il chante trop fort, à ce moment-là, il va refroidir sa cuve. S'il chante pas assez, il va aussi lui conter une petite mélodie. Bref, ça se suit comme un gamin qui ferait ses premiers pas. Alors il faut le fêter avec légèreté parce que ce n'est pas un vin, comme on dit, sérieux. On n'a pas besoin de le faire roucouler longtemps à l'intérieur du verre. Il faut surtout faire santé en claquant les verres et puis, bien sûr, le boire à la régalade. Voilà, comme on est en train de faire chez Oui, mon général. Hop. Petit doigt sur la couture, s'il vous plaît.
Oui, mon général, absolument. C'est bien vu, c'est bien senti, Jean-Luc. Comme toujours, bravo.
Santé.
Jean-Luc Petit-Renaud, santé en train qui ont fait roucouler le Beaujolais. C'est tellement vrai. Alors, ne bougez pas. Dans un instant, ce n'est pas une, mais deux invités bonnes vivantes que nous accueillons. Brigitte, le duo de chanteuses, mettra ses quatre pieds sous la table. A tout de suite, les amis. Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis, un Europe 1 suave, hein, comme la voix de nos invités aujourd'hui. Anne Lorfam, vous allez nous mettre au parfum des sucres alternatifs dans un instant, au sucre alternatif des sucres blancs.
J'ai mes sirops, je suis prête.
Ça c'est bien, ça va nous faire du bien. Et Brigitte, le duo de chanteuses Bonne Vivante sera avec nous dans un instant. On les écoute, tiens, juste avant avec leur tube, À bouche que veux-tu, mais écoutez, en version acoustique, piano, voix, violon. C'est un extrait de leur dernier album qui s'appelle Toutes Nues. Elles seront là juste après, habillées.
Viens, belle air, posée sur tes mains. M'aimeras-tu demain ?
Bravo, mais bravo, on applaudit. On applaudit.
Je suis
Brigitte.
On était envoûtés.
Mais quelle belle voix vous avez, franchement, unie pour la musique comme le sel et le poivre. Elles nous emballent à chaque album avec leur voix suave. Brigitte, un seul nom pour deux femmes fatales, on vient de les entendre. Sylvie et Aurélie, bonjour Sylvie.
Bonjour Laurent.
Bonjour Sylvie, pardon, et bonjour Aurélie. Mais je savais, parce, évidemment, j'ai croisé. Ça va bien les filles ?
Super, ça va.
On est ravis de vous avoir ici avec nous parce que vous aimez bien manger. Hein, ça, c'est pas
hélas.
Une légende. Pourquoi hélas ?
Ah,
Non, tant mieux.
Faut c'est... pas dire et là, voilà.
Vous connaissez cette blague, deux copines qui rigolent en train de devant une grosse part de gâteau dans un resto. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on ferait sans la bouffe? Il y en a une qui dit à l'autre et l'autre, elle éclate de rire, elle lui dit tu 36.
Ben voilà, c'est ça le plaisir.
Quel malheur.
Le plaisir de la bonne chère. Alors vous serez le 2 décembre hein, avec votre nouvel album aux Folies Bergères. Alors c'est complet déjà, mais attention, tout n'est pas perdu pour ceux qui veulent venir vous voir ou vous entendre. Il y aura un concert spécial sur Europe 1 le 10 décembre chez Émilie Mazoyer à 20h. On adore cette émission d'Émilie. Moi, je cuisine beaucoup en écoutant Émilie Mazoyer. C'est un ton, voilà, c'est des musiques en live. Donc les Brigitte, faut plus dire les Brigitte hein, maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Brigitte sera le 10 décembre chez Émilie Mazoyer. Voilà. C'est vrai que vous avez été à deux doigts d'ouvrir un restaurant. Sylvie, racontez-nous ça.
À deux doigts.
Au début de Brigitte, quand on était toutes les deux à travailler chez Aurélie autour de la table et à beaucoup manger, on se moquait de nous-mêmes et on se disait que si ça ne marchait pas, et on était sûr que ça ne marcherait pas, on ouvrirait un restaurant puisqu'on aimait tellement cuisiner que c'était aussi quelque chose qui nous reliait. Donc on imaginait un restaurant pour les copains, quoi, sans facture, sans caisse,
oui, un truc rentable.
Avec que des gens qu'on aime bien, qui nous fait plaisir. Donc oui, non, c'était un peu...
Et ça a marché, et tant mieux pour nous. Quel est votre goût de la semaine, tiens Aurélie?
Ah là là, je suis allée manger dans un restaurant absolument extraordinaire, qui se trouve rue Condorcet, qui s'appelle Cuisine. Et le chef, qui je crois a été le second du Chateaubriand, nous a fait un rouget. Et il a fait paner les écailles. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, c'était beau.
Technique japonaise.
C'était beau comme un personnage d'un film de Miyazaki. On a mangé les écailles frites du poisson.
Oui. Mais ça, c'était... Ça, c'est costaud, ça.
Ouais, mais oh c'est très là. Croustillant. Et ouais, c'est
ça
très
s'appelle
agréable.
Cuisine. Et vous, votre goût de la semaine, tiens, Sylvie?
Des pommes.
Ah, bah pourquoi vous prenez ce petit air? C'est bon, les pommes?
Bah oui, parce que c'est la saison des pommes.
Bien.
Je fais de la compote de pommes avec les pommes du jardin. Voilà.
Et vous êtes toutes les deux des becs sucrés, je crois. Alors, on va consacrer la chronique d'Anne Lorfam, justement, au sucre, mais pas n'importe quel sucre. Vous le savez, on essaye de choisir des sucres bruts, naturels. On essaye d'éviter les sucres raffinés, les sucres blancs. Et vous allez nous mettre au parfum avec plusieurs sucres et plusieurs sirops, on peut dire ça, Anne-Laure.
Et oui, parce qu'à l'échelle mondiale, Laurent, quand même, au cours des 50 dernières années, la consommation de sucre par habitant a augmenté de 50%. C'est quand même hallucinant. Et les Français, chez eux, sont plus de 35% à faire tout particulièrement attention au sucre et à la teneur en sucre de leur plat.
Mais ce qu'il faut dire, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de ces sucres se trouvent dans les sodas et que beaucoup de gens...
Ou dans les plats préparés.
Les plats préparés, mais surtout dans les sodas, déjeunent avec du soda. On ne mange pas avec du soda, il faut le redire.
Ce sont les sucres cachés. Et du coup, à l'occasion, on va se pencher sur des sucres un peu plus naturels. Alors attention, on va éviter la case édulcorant comme l'aspartame. On s'en fiche. Et j'ai envie de vous emmener quelque part, au Moyen-Orient, par exemple.
Oui, on aime bien, on est clients.
Avec un petit nouveau, un sirop de date.
Si,
vous connaissez?
Bah bien sûr.
C'est un grand classique du Moyen-Orient, c'est ça?
Bah ouais.
Eh bien, en France, on n'en avait pas trop encore.
Ouais,
et là, c'est bio,
temps,
c'est chez Rapunzel. C'est un sirop qui est extrêmement collant, sirupeux, mais pas du tout riche en goût de date.
Alors,
je
vous avez fait une association qui est osée. On va voir si les filles se risquent. Alors, c'est même Olivier Pouls, notre belge de l'étape, qui n'aime pas le chou de Bruxelles. C'est chou de Bruxelles, juste cuit comme ça, que vous allez.
Alors, je les ai fait blanchir, caraméliser. Vous retrouverez la recette sur europe1.fr. Je les ai fait caraméliser avec un mélange de sirop de date, d'huile d'olive. Alors, normalement, ça devrait être un peu plus croquant encore.
Ah, mais ils sont croquants, là. Ils sont al dente.
Et du coup, c'est un sirop que vous utilisez aussi bien en version sucrée que salée. Il ne faut pas s'en priver.
Ça marche en salé, hein, sirop de date.
Alors, et moi, qui n'en mange pas des choux de Bruxelles, là, j'avoue que c'est bon.
Grâce au sirop de date, voilà.
Autre sirop. Alléluia. Bravo. J'ai consacré le choux de Bruxelles.
Autre sirop, Anne-Laure.
Alors, un petit saut au Canada avec le sirop d'érable.
Ah, on connaît,
l'un de mes préférés. Achetez-le carrément au litre. Ça se conserve super longtemps au frigo. Et en gros, ça va partout. Et c'est issu de la sève récoltée sur l'arbre. Vous avez donc très peu de transformation et les enfants surtout adorent particulièrement. En dernière touche sur le yaourt.
Bah oui, un petit marron coupé en quartiers avec la peau rôtie au four, des gousses d'ail en chemise, de l'huile d'olive et un petit trait de sirop d'érable, ça marche ça, hein?
J'en ai un troisième, je ne sais pas si vous l'adopterez ou pas, c'est le sirop d'agave. On en a beaucoup parlé ces trois dernières années.
Cactus,
on l'a érigé, voilà, parce qu'il est issu de l'agave bleu du Mexique. Alors il est souvent commercialisé et vanté comme étant très sain avec son haut pouvoir sucrant et son index glycémique très bas, mais il s'avère qu'il a un taux très élevé de fructose. Donc, attention, mollo oui, sur le sirop d'agave aussi, qui pourrait être aussi nocif.
Ils ont un indice glycémique qui peut être costaud, voilà.
Voilà, c'est pareil peut-être que le sucre blanc raffiné, donc à voir.
Merci Anne-Laure Femme. Aurélie Saada, c'est vrai que vous êtes gourmande. Votre sœur Chloé Saada est une pâtissière qui compte. On la retrouve d'ailleurs sur My Cuisine. C'est un peu elle qui a même démocratisé le cupcake en France.
Hein, complètement,
ouais. On peut dire ça. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, le choix des sucres, quand vous allez pâtisser à la maison, par exemple.
Quand on pâtisse à la maison, ouais. Il y a quelque chose... Alors la pâtisserie, c'est plutôt même... Ça, c'est le monde de ma sœur surtout. Mais c'est vrai qu'on fait attention au sucre, nous, beaucoup. On est une famille de... Alors moi, je ne le suis pas, je suis passée au travers, mais dans ma famille, beaucoup sont diabétiques.
Et, oui.
Et ma sœur, notamment, est diabétique. Et je pense que c'est ce qui a éveillé chez elle sa passion pour la cuisine et son désir fort d'explorer ces territoires interdits quand elle était enfant et d'en faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'on fait toujours très attention au sucre qu'on met. On fait attention plutôt chez moi.
Faisons attention au sucre.
Ouais. Oui.
C'est bien, c'est le mot de ce
sans
samedi midi, je suis d'accord. Dans la famille, tiens, des crustacés de saison, rien à voir, je demande les crevettes grises.
Ah, j'achète.
Là, vous achetez, les filles, ça vous plaît les crevettes grises?
Moi, j'aime tout.
Ah, elle aime tout, c'est bien, j'adore.
Mais c'est vrai.
Mais c'est bien d'aimer tout, justement. Ce sont les dernières de la saison, bon marché, elles seront dans le plat du jour. Ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite, les amis, avec Brigitte.
Ça pour 1 euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Un dossier sur la précarité alimentaire de nos étudiants avec des solutions, hein, on a entendu tout à l'heure. Des carottes pour avoir bonne mine en attendant un plat de crevettes et le Beaujolais nouveau d'Olivier Pouls. Beaujolais ancien, vous entendrez précisément. Et bien voici le menu que nous déroulons avec deux copines bonnes vivantes. Brigitte est avec nous, Aurélie et Sylvie qui sont avec nous pour déguster. Deux filles qui aiment, vous l'entendez, manger, cuisiner. Ça vous vient d'où ce plaisir de la table et de la bonne chère? Qui vous l'a transmis, Sylvie?
La famille, hein. Mon père cuisinait beaucoup, ma mère aussi. Mon père déteste les plats préparés. Les boîtes, les raviolis, je me rappelle quand on était petits. Les raviolis en boîte, mais c'est horrible, c'est de la bouffe pour chien.
Bien élevé, bien élevé.
Vous Olivier entendez, Olivier ne Pouls, protestera
vous
pas.
Avez entendu. Et vous Aurélie, c'est pareil, on ne plaisante pas avec la cuisine dans votre famille.
Ouais, tout le monde cuisine, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde aime ça. Les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les vieux.
Votre plat fétiche, c'est quoi?
Ah là là. Ce qu'on me demande beaucoup, parce qu'il y a peu de gens de ma génération qui le font, c'est les couscous juifs tunisiens. La pkaïla, si ça vous dit quelque chose.
Non, dites-nous, c'est
récemment,
quoi?
Récemment, j'ai fait de la brania. La pkaïla, c'est un ragoût à base d'épinards, de menthe. Les épinards sont confits, réduits, presque comme une confiture presque noire. Il y a de la menthe, des haricots, du bœuf qui est mijoté dedans et ça se sert avec de la semoule. Il y a ce couscous-là qui est un couscous vert noir.
Ah, j'adore ça. Et ouais. La brania, il y a de l'aubergine, non, dans la brania?
La brania, ouais. C'est un plat qui... Alors là, pour le coup, c'est vraiment une toute petite communauté qui faisait ce plat. Donc, c'est les Juifs de Sousse. Le jour de Kippour.
En Tunisie, oui.
Ouais, uniquement. Donc, à Sousse, en Tunisie, les Juifs, la communauté juive. Donc, je pense qu'il y avait 12 personnes qui faisaient ça. Mais dont ma famille.
Ah, la
chance. Et alors, c'est un ragoût à base d'aubergine et de potiron, de poulet et de pois chiches. Et on sert ça avec de la semoule aussi. Et c'est marrant, je l'ai mis sur mon Instagram parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On m'a dit, oh, tu veux pas nous faire de la brania? Alors, j'ai dit, ok, bah, je fais de la brania, des copains à la campagne. Je vais le mettre sur Instagram. Vous pouvez pas savoir le nombre le nombre de photos de brania que les gens qui me suivent m'ont envoyé de leur brania qu'ils avaient fait.
On peut venir quand alors?
Quand vous voulez.
On va venir, on va prendre date tout
hashtag
de suite.
We love brania.
Alors on vous emmène en Belgique, tiens, pour le plat du jour, déguster un joli plat de crevettes grises. On adore ça, les crevettes grises à la table des bons vivants.
Vous avez fait ça dans mon dos sans même
dans votre dos, c'est Anne-Laure Femme qui est
toujours
allée en Belgique. Vous êtes allée où, Anne-Laure? Racontez-nous.
Je suis allée en Flandre occidentale, sur le littoral belge. On avait très froid ce jour-là, c'était sous la pluie. Et j'ai assisté à la pêche des crevettes grises à l'aide d'un cheval de trait.
Ah,
et
joli.
Aussi sec. Un chef génial qui s'appelle Willem Hill, qui a son resto qui est à son nom, à Coxide, nous l'a cuisiné en bisque de crevettes. Et voilà, on va vous raconter une histoire de plage et de bisque.
Écoutez bien, ça c'est vraiment la recette que vous allez pouvoir refaire ce week-end pour vous réchauffer.
On cuit les crevettes en feu très chaud.
Les crevettes encore vivantes?
Ouais.
Vous rajoutez de l'huile?
Je coupe en dés, de l'ail, des gros morceaux. On prend de l'ail frais avec la peau. On prend des piments.
Et on commence à sentir un petit peu les notes iodées des crevettes.
Et on met un peu de concentrate de tomate. Ça commence à caraméliser en fait. On met encore un peu de l'eau. Je laisse cuire maintenant pour 25 minutes. Frémir en fait. Un feu doux. On laisse reposer 2 heures, 3 heures. Et puis on va tamiser
Donc là, on est en train de filtrer la soupe.
Ouais, on pousse jamais.
On laisse égoutter tout seul.
Je verse la soupe dans la tasse de ma grand-mère et on met un peu de café en dessous, du crème qu'on a monté avec du café et un peu de poivre et sel.
Et maintenant, je bois une petite gorgée de soupe. Ah waouh, en longueur de bouche, on a l'impression d'être au bord de la mer. La soupe est servie avec un pain au levain, c'est ça?
Ouais. Je tartine du vrai beurre. Tu peux tremper dans la soupe maintenant? Okay. Ce plat, il faut manger avec les mains. Hein.
Ah oui.
C'est très important.
Eh ben voilà, on fait trempette. Merci Anne-Laure Fabre.
On a mangé salement, mais c'était bon.
Donc une crème montée avec du café qu'on met à l'intérieur de cette bisque de crevette. Ça change de vos croquettes de crevette grise, Olivier Pouls?
C'est vrai que ça change, mais moi, la crevette grise, c'est un truc de gamin. J'en ai pêché, j'en ai mangé des kilos et des kilos. Sous forme de croquettes, souvent d'ailleurs. C'est délicieux. Mais aussi, en été, en saison, les tomates crevettes, c'est un grand plat national.
Mmh, oui.
Voilà, une tomate évidée,
c'est kitsch,
crevettes
c'est
de la
bon.
Ah, mais qu'est-ce que c'est bon.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
La mayonnaise, tout simplement,
et
un petit peu de persil.
Rien
c'est
à voir avec la crevette rose de Madagascar.
La vraie crevette grise. D'ailleurs, si vous voulez manger des croquettes de crevettes à Paris, il y a Pont-Neuf qui vend des très bonnes frites comme ça à emporter, qui font également des croquettes de crevettes grises. Vous confirmez, Olivier Pouls?
Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits, en Belgique, en France, pardon, où on peut en manger.
Vous êtes adepte des crevettes, les filles?
Totalement.
Voilà, elles mangent de tout, on n'arrive pas à les coller, c'est incroyable.
Moi, j'ai jamais goûté les croquettes de crevettes.
Eh ben, on vous emmènera chez Pont-Neuf. Voilà,
on a trouvé l'air.
On fera frites aussi.
Ah, oui.
Allez, à tout de suite et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table des bons vivants avec Brigitte, toute nue. C'est le titre de leur dernier album. Elles seront le 2 décembre aux Folies Bergères. C'est complet, mais on peut les retrouver justement sur l'album. Et nous, avec Le Front, on a sorti nos chandails, parce qu'on n'est pas tout nu en ce moment. Et d'ailleurs, on voudrait faire un petit peu d'étymologie, puisque vous êtes là, les filles, Sylvie et Aurélie. Ça vient d'où, Olivier Pouls, ce mot chandail là?
Au 19e siècle, ça vient du 19e siècle, les marchandails bretons, qui étaient aux Halles de Paris, ils portaient des gros pulls tricotés parce que bah, forcément, il faisait froid. Et on les regardait, on leur disait, tiens, ils ont mis des chandails. Et d'où l'expression,
on les appelait comme ça. Voilà.
C'est fashion.
Comme quoi, il ne faut pas aller chercher loin. Hein. et c'est la saison de l'ail sec. Hein. Une belle tarte à l'ail sec rose de Lautrec. Ça, c'est délicieux. Ah, j'aime bien les yeux d'Aurélie. Ça vous parle, ça,
ouais,
l'ail
ça... Hein bah ouais.
Ça se mange en tête à tête. C'est préférable quand même. Hein, une tarte à l'ail rose
oui,
de Lautrec.
Il
faut le partager. Mais c'est de l'ail qui
ou
est juste.
Chambre à part.
Juste confit avec un petit peu de miel et un petit peu de thym. On leur a fait blanchir quelques minutes avant l'ail et on le met ensuite dans un appareil avec de la crème et de l'œuf, et c'est délicieux, c'est comme une tarte, comme une quiche à l'ail, et l'ail peut être travaillé avec comme un légume. Non, faites pas la grimace, Olivier Pouls, c'est très bon.
Mais c'est costaud quand même. Hein.
Ah oui, mais c'est
pas
bon.
Tant que ça, il est subtil, hein, l'ail rose de Lautrec, je vous promets. C'est vrai que vous vous retrouvez toutes les deux pour faire de bonnes bouffes, Sylvie et Aurélie de Brigitte. On m'a parlé d'un joli moment autour du ralot, qui est le pain du Shabbat, c'est ça hein.
Ah oui, j'ai raconté comment Aurélie... cuisinait et donc notamment comment elle faisait les ralottes. Et je me souviens que la première fois que je l'ai vue faire, donc elle a le savoir-faire, les mains, tout ça, ça bouge très vite. Et à un moment, elle me dit « Ferme les yeux !» Elle sort la bouteille d'huile, elle verse la moitié de la bouteille dans la pâte. Et là, j'ai « D'accord, c'est donc ça le secret qu'elle ne voulait pas !»
Une question tiens, que vous avez envie de nous poser, Sylvie, sur une recette, un ingrédient sur lequel on pourrait vous aider?
J'ai réussi un jour à faire de très beaux choux, mais je l'ai fait qu'une seule fois.
Oh, des choux genre
la
choux à la crème.
La première fois, oui, pour faire des chouquettes.
Bah, voilà, regardez, on vous en apporte justement de belles chouquettes.
Magique.
Et c'est Yann Couvreur qui est un super pâtissier qui vous offre ces choux à la crème. La pâte à choux, c'est vrai que c'est un petit peu technique. Il y a ce qu'on appelle la détrempe, qui est un mélange de farine et d'eau qu'il faut bien faire mélanger dans la casserole. On fait chauffer. Et ensuite, le truc vraiment pour réussir la pâte à choux, c'est d'ajouter les œufs, mais un par un. Et à feu moyen, voire doux, pas trop fort, sinon ça coagule, un par un. Et certains pâtissiers vous diront même moitié d'œuf par moitié d'œuf. Et
oui.
On mélange à chaque fois avec la cuillère la détrempe et l'œuf, et c'est comme ça qu'on obtient une pâte à choux qui se décolle ensuite des parois de la casserole. Ça, c'est le truc.
Et on en fait une délicieuse version salée aussi avec du fromage. Du comté, par exemple, et on laisse pousser ça, c'est absolument merveilleux.
Des gougères.
Des gougères.
Bah oui, c'est super.
C'est tellement bon, les gougères.
Voilà.
Ouais, j'adore.
Aurélie. Une petite cuillère de moutarde à l'ancienne dans la pâte à choux avec les gougères et le fromage, c'est délicieux.
Aurélie, une question?
Oui, alors, j'ai mangé à Venise, il n'y a pas longtemps,
des petits poissons qui avaient été frits, une friture de poisson, et la friture, la panure était tellement fine, incroyable. J'aimerais bien savoir comment faire ça, parce que ma passion dans la vie, c'est tout ce qui est frit.
Ah, c'est bon, les fritures, moi j'adore ça. Oui, moi aussi, j'adore les artichauts à la juive, tout ça, c'est magnifique, on fait frire. C'est la farine qui est responsable un petit peu de cette panure vraiment hyper fine. C'est une farine 00, c'est la même farine que les Italiens utilisent pour la pizza, par exemple. Oui. Et ils vont mettre un tout petit peu de lait avec, en fait. Ah. Une farine spéciale, un petit peu de lait et 2-3 minutes de friture. C'est la rencontre du gras, du lait avec justement cette farine. Hein, on a l'impression d'une tempura un petit peu, c'est très transparent.
C'est incroyable, c'est un peu comme tempura, mais sauf que c'est un peu, mais
plus
pas vraiment. Quoi.
Mais pas vraiment,
fin.
Voilà. Ouais. Et ben,
après, si on veut faire une petite friture de poisson toute simple à la maison, effectivement, une farine de ce type-là, il faut bien éponger les petits poissons pour qu'il n'y ait pas d'humidité, justement.
C'est vrai. Ouais. Ouais.
Il faut bien les éponger, on met la farine dans un sac en plastique, les poissons, on secoue bien de manière à ce que la farine se répartisse de manière homogène, et puis tac, on plonge juste dans la friteuse.
Allez, on sait que vous raffolez des choux, alors on continue de les déguster pendant la pause avec Sylvie. Merci Yann Couvreur pour ces jolis choux, et on se retrouve juste après. A tout de suite sur Europe 1, merci d'être là, et bon samedi midi, on est avec Brigitte.
Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Je sais que vous désapprouvez ces méthodes, mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire, là !
Mon Dieu, mon Dieu.
Dernière partie de notre émission, Brigitte est avec nous. À bouche, que veux-tu ? Nos chanteuses viennent de terminer leur deuxième chou à la crème, même peut-être trois hein, pour Sylvie. Hein. Je balance pas, mais je m'informe moi, hein, quand même. Tout se passe bien les filles, Aurélie ?
Oui, on parle pas la bouche pleine.
Ici, ici.
Est-ce que l'arrivée de Brigitte Macron a été vécue comme une concurrence pour vous ?
Pas du tout, non.
Pas du tout. Ça vient d'où ce nom Brigitte ? Non mais je blague, mais ça vient d'où ce nom Brigitte ?
Ça nous amusait d'avoir un prénom d'abord pour ce groupe avec deux chanteuses. On trouvait ça assez déstabilisant, n'est-ce pas ? Tout le monde va nous appeler Lé Brigitte.
Je veux dire, on est concentré hein, quand on vous reçoit.
Et puis ce prénom, il avait plein de paradoxes parce qu'il était à la fois très familier. Ça pouvait être la dame de la cantine, la vendeuse de la boulangerie. Et en même temps, des femmes
sulfureuses,
iconiques.
Ah oui.
Brigitte Bardot, Brigitte Lahaye.
Brigitte Fossé,
Brigitte Fontaine.
Il y a de jolies Brigitte.
Et Brigitte Macron maintenant.
Et Brigitte Macron maintenant, voilà, exactement, c'est ce qu'on disait. Vous aimez le vin, Aurélie ?
Ah oui.
Oui. Eh bien justement, voici l'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Alors on en parlait la semaine dernière, on a évoqué le Beaujolais Nouveau. Je disais ouais, le Beaujolais Nouveau, c'est vrai qu'on l'a un peu galvaudé avec ses goûts de banane et de litchi.
À cause des levures,
exactement. Mmh. Et Olivier disait oui, mais c'est la tradition, il faut vraiment s'y tenir, le Beaujolais Nouveau c'est important. Et de quoi il nous parle aujourd'hui ? Du Beaujolais ancien, c'est ça ?
Oui, j'ai changé d'avis, j'ai essayé de faire une petite contre-programmation. Alors il faut laisser au Beaujolais Nouveau les vertus qu'il a, c'est-à-dire c'est un vin simple, facile, c'est un bon petit glouglou, il n'a pas de prétention. Des bons et il y en a des très mauvais. Mais moi, cette semaine, je suis allé dîner dans un restaurant chez les amis et le sommelier m'apporte un vin à l'aveugle. Il me fait goûter, je lui dis ça, c'était très bon, je pense que c'est un vieux vin de Bourgogne. Il enlève la chaussette, paf, un Beaujolais, un Morgon de 1997. Et donc je me suis dit que vraiment, les Beaujolais, on a oublié à quel point ce pouvait aussi être des grands vins et des grands vins de garde.
C'est quoi un bon Beaujolais alors ?
Eh bien, vous savez que le Beaujolais, c'est une vaste région, une magnifique région demeurant. Et dans cette région, il y a 10 crus. Alors, on en connaît quelques-uns, hein, les Moulins à Vent, les Morgons, Chenaz, Udenas. Il y a des vignerons qui exploitent vraiment de manière remarquable ces terroirs et qui font des vins à base de gamay, puisque le cépage, c'est le gamay.
Oui, un seul cépage. Hein.
Un seul cépage. Ces vins sont destinés à être gardés comme le sont les vins de Bourgogne ou de la vallée du Rhône. Et d'ailleurs, si on prend une carte des vins de l'après-guerre d'un grand restaurant ou d'un grand caviste, on va se rendre compte que les crus du Beaujolais les plus prestigieux sont vendus au même prix que les grands vins de Bourgogne ou de la vallée du Rhône.
Et pourquoi ça s'est dégradé alors ?
Eh bien parce que malheureusement, la mode du Beaujolais nouveau qui a explosé dans les années 70...
Elle a fait du mal.
Bah oui, elle a fait beaucoup de mal. Beaucoup de vignerons se sont reposés exclusivement là-dessus. La technique est arrivée, les levures aromatisantes et puis une espèce de business trop rapide et malsain. Et malheureusement, ils ont terriblement dégradé l'image. Mais le Beaujolais, ce n'est pas que du Beaujolais nouveau, c'est aussi du Beaujolais vieux. Et regardez ce que je vous ai apporté, Brigitte. Je vous ai servi un verre, à Laurent aussi d'ailleurs, à Anne-Laure. C'est un château des Jacques, un domaine remarquable qui depuis longtemps
délicieux.
Œuvre pour faire des grands Beaujolais de caractère quand on goûte ça à l'aveugle, on ne pense pas qu'on est dans le Beaujolais. C'est un vin qui a 14 ans d'âge, c'est un Morgon 2005. Et regardez la complexité de ce vin.
C'est magnifique ça.
Il est complexe mais léger à la fois. Moi je le vois bien en apéritif aussi.
Ouais, ou avec un pot-au-feu, ça c'est superbe ça.
Mais même avec des plats un peu hivernaux. Et puis ce que je voudrais dire, c'est qu'on est quand même dans des rapports qualité-prix qui sont fantastiques. Sur les cartes des vins dans les restaurants, allez voir les trésors du Beaujolais. Vous verrez que pour deux ou trois fois moins cher que des vins de Bourgogne ou de la Vallée du Rhône, vous avez des vins extraordinaires. Réhabilitez-les.
Et on salue tous les vignerons justement qui se donnent du mal pour faire du bon Beaujolais et sortir justement des écueils du Beaujolais
exactement,
nouveau.
Exactement, les Desvignes, les Boulards, les Descombes, etc., etc. Il y en a beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls. Et maintenant, Brigitte, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêtes, les filles ?
Je suis prête, alors.
Prête.
C'est parti.
Ah, on grille pour de vrai.
Ah, ça grille. Tiens, on va commencer par vous, Aurélie. Le goût de votre enfance.
La fleur d'oranger, qu'on appelait le mazar chez moi. Ma grand-mère appelait ça le mazar.
Qu'est-ce que ça apaise ? Quel joli parfum que la fleur d'oranger. Oui. Sylvie ?
L'ail, l'oignon, la tomate, le curcuma.
Bien.
Du curry réunionnais.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Aurélie ?
C'était des tagliatelles au roquefort et aux noix. J'étais petite, j'avais 9 ans, et mon oncle m'a appris à... Il avait un restaurant de pizza, enfin un restaurant italien, et je l'avais vu faire, et je me suis décidée un jour à faire les courses et à cuisiner pour mes parents et ma sœur.
Et vous, Sylvie ?
L'ail, l'oignon, la tomate, le curcuma, le curry réunionnais.
Si vous faites des compotes.
Oui, aujourd'hui.
Quel est votre plus beau repas dans le sens inoubliable, Aurélie ?
Alors, inoubliable.
Oui.
Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais je suis fan de cuisine. J'ai regardé Cuisine TV, je vous ai regardé, vous ne pouvez pas savoir, des jours, des nuits entières.
Chrono,
bien sûr, 24 minutes chrono. Et,
on a passé nos nuits ensemble, je ne savais pas, incroyable.
Et donc, je suivais le travail de Jean-François Piège. À l'époque, il était au Crillon.
Oui.
Je vais dîner un soir là-bas. C'était magnifique, extraordinaire. Puis peu de temps après, on se rencontre et j'invite Jean-François Piège à dîner chez moi.
Gonflé, c'est bien.
Gonflé. Et je me dis, en même temps, bon, pas beaucoup de personnes doivent l'inviter à dîner à la maison. Donc, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire ? Et je me suis dit, je vais lui faire ce que je fais traditionnellement. Et là, j'étais à fond, j'ai fait une kémia, les ralottes, la pkaïla, j'ai tout fait, les aubergines rôties avec la sauce à la trina, enfin beaucoup de boulot. Je voulais lui faire plaisir comme je l'admirais.
Et alors ?
Ben, ça lui a plu, il m'a même demandé la recette de mes ralottes.
Ah bah alors, vous voyez. Donc bravo,
voilà, ouais, mission accomplie. Mission accomplie.
Et quel est votre pire repas, Aurélie ?
Ben c'était le même, parce que vous imaginez la pression d'enfer que je me suis mise.
Votre pire repas à vous, Sylvie ?
Peut-être un resto au Japon. Comme de bons parisiens, on imagine qu'à 13h30, on va trouver un restaurant. Et puis on était dans les Alpes japonaises, du côté de Kanazawa, et aucun resto ouvert. On finit par en trouver un. On se retrouve devant un couple de Japonais qui ne parlent pas un mot d'anglais, mais qui comprennent qu'on a envie de manger quelque chose, quand même. Et on a mangé, en tout et pour tout, je pense, des crevettes crues et des poulpes crues.
Ah, le poulpe cru, c'est costaud, oui.
Il y avait, je pense, peut-être 5 ou 6 plats différents, toujours avec la même base.
Du cru.
Et des choses qu'on n'arrivait pas à identifier. Je me suis gavée de crevettes crues et de trucs bizarres parce que mes enfants ne voulaient rien manger et que le monsieur regardait nos assiettes de temps en temps pour voir si on aimait. Il nous demandait si on trouvait ça bon. Puis on disait oui, bien sûr. Et moi, je n'en pouvais plus de manger des trucs tellement bizarres.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Aurélie ?
Ah, alors j'ai appris récemment avec un chef, Denis Ambrosi.
Oui, chef italien.
Un chef italien, j'ai appris à faire des pâtes. Et donc, j'ai appris à faire des pâtes avec... de la farine, de l'huile d'olive, du sel, de l'eau,
des pâtes fraîches.
Et j'ai trouvé ça absolument génial d'avoir comme ça les trois petits éléments de rien du tout et de pouvoir nourrir...
Vous les emmenez sur l'île et comme ça, avec l'eau, vous pourrez faire cuire les pâtes.
Évidemment.
Et elle sera déjà salée, en plus, l'eau. Le plat que vous emmèneriez sur une île déserte, vous, Sylvie ?
De l'ail, de l'oignon, de la tomate, du curcuma.
Ben voilà.
C'est la base.
Ça, mais je suis bien d'accord.
On fait tout avec ça.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Sylvie ?
À table, non, j'ai faim. J'ai soif.
J'espère. Ah. Très bien, bon, on a ce qu'il faut. Et vous, le mot de la fin, F-A-I-M, Aurélie ?
Ah, le mot de la fin, oh là là. Bah, c'est ça, ça aurait été ma petite blague, mais bon, maintenant.
La petite blague du 36.
Oui,
écoutez le podcast, vous retrouverez la blague du 36 en début d'émission de l'accueil de nos invités, Brigitte. Alors, le mot de la fin, du coup ?
Bah, à table.
À table, et eh bien voilà, on y est. Merci d'être venus, Brigitte, Aurélie et Sylvie. Je rappelle votre album acoustique Toute Nue qui sort le 29 novembre. Un très joli album avec beaucoup de morceaux. Il y a une vingtaine de morceaux. Hein,
sur 21.
21, voilà, sur cet album. Piano, voix et violon. Voilà, c'est acoustique, c'est tout ce qu'on aime. Et guitare.
J'ai pas reconnu la guitare de temps en temps.
Oui, la petite guitare. Oui, c'est vrai, il y a la petite guitare. Oui, mais dans Carnivore, il y a la petite guitare ou pas la petite guitare dans Carnivore ? Voilà. Non, j'ai beaucoup aimé Carnivore. Écoutez Carnivore, voilà, c'est très très joli. Toute Nue, Brigitte. Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Anne-Laure Farm et Olivier Pouls. On se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, les recettes vous attendent sur europe1.fr. Merci Jean-Luc Herblade à la réalisation et Agnès Vaudin à la programmation. La semaine prochaine, nous serons avec Pierre Gagnère, chef 3 étoiles, qui sort un super bouquin de recettes, mais des recettes accessibles. Vraiment, c'est pas le livre de chef compliqué, vous verrez. Il a plein de choses à nous dire, justement, sur ses rapports avec la fourchette. Bon week-end, faites le marché, la cuisine et le reste. Et bon week-end, Justine.
Et bon week-end, Laurent. À samedi prochain. Mais restez avec nous. Dans quelques minutes, vous serez avec Fabienne Lemoelle pour votre journal de la mi-journée. Et à 15h, Isabelle Morizet vous attend pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Elle ne vous attendra pas seule. Et non, elle sera avec l'humoriste Kev Adams. Alors très bon week-end avec Europe 1, il est midi 26.